J'étais très heureux d'être le seul extrême-orientaliste dans un colloque d'indianisme, et personne ne m'embêtera. Et puis, voici que je découvre que ma collègue Anne Chiang est là, et alors je vais parler, bien sûr, avec crainte et tremblement, mais sous ce regard sévère, mais je vais parler de partir de quelques généralités pour arriver à des choses peut-être un peu trop précises, mais dont j'essaierai de montrer la pertinence pour le thème général de ce colloque. Alors, la séparation géographique alliée à un grand éloignement historique a longtemps mené les Occidentaux qui se sont occupés du bouddhisme à des attitudes contradictoires lorsqu'ils ont commencé l'étude de la progression vers l'Est de cette doctrine indienne. Soit qu'en regardant de l'extrémité européenne de l'Eurasie, un effet de perspective leur ait montré l'Inde et la Chine comme situés dans un même horizon lointain aux frontières mal définies, et alors leur simple non-appartenance à la culture européenne les fait alors se confondre dans une zone floue où les limites internes importent peu. Si une telle attitude était par la force des choses répandue au XVIIIe et XIXe siècle, même dans les milieux érudits, en raison de l'insuffisance des sources et des connaissances philologiques encore insuffisantes aussi, elle s'est rapidement estompée dans ces mêmes milieux, mais est encore très vivace dans le monde des pratiquants occidentaux du bouddhisme, où l'on cultive souvent, même de façon délibérée, l'éclectisme doctrinal et rituel. L'autre position est moins indulgente. Elle consiste à considérer toute la tradition de langue chinoise qui s'est constituée à partir du IIe siècle de notre ère jusqu'à son achèvement pour l'essentiel au VIIe siècle, c'est une date que je propose, je n'insiste pas, comme une longue série de malentendus provoqués par des traductions viciées en leur fondement même, en raison de l'incompatibilité des langues, du défaut de connaissances grammaticales, de l'insuffisance de vocabulaire. On la retrouve chez des érudits qui, sans être spécialistes du bouddhisme, l'avaient cependant étudié attentivement, comme le père Henri de Lubac, mais aussi chez des spécialistes contemporains des études indiennes, dont l'un des représentants les plus connus, que je nommerai pas plus loin, écrivait encore il y a quelques années que les traductions chinoises des textes bouddhiques n'avaient rien à apporter à l'indianisme. Propos heureusement démenti par les recherches de savants de la qualité de Kadashima Seishi, par exemple. Une chose est certaine, et nous n'aurons pas à y insister tant elle est évidente, l'immense œuvre de traduction des textes bouddhiques indiens en langue chinoise est un exploit intellectuel rarissime dans l'histoire. S'il n'est pas du tout de même nature que celui réalisé par les traducteurs tibétains, qui, eux, trouvent le plus souvent grâce et avec les meilleures raisons du monde aux yeux des indianistes, il n'en demeure pas moins un sujet d'étude passionnant pour le philologue, et ce pour plusieurs raisons que je vais tenter d'exposer ici, en essayant de faire la synthèse d'une série d'articles que j'ai publiés au fil des ans. En réalité, non, parce que je n'aurai pas le temps, bien que la recherche que je mène en ce domaine soit loin d'être achevée. Il est inutile d'insister à notre époque, en principe plus éclairée qu'au XIXe siècle, sur la profondeur des différences qui séparent le chinois du sanskrit. Elles sont bien plus grandes qu'entre le sanskrit et les principales langues de l'Europe moderne. Pour rester dans le domaine religieux, si l'on prend l'autre grand domaine de l'histoire de la traduction d'écriture canonique en Eurasie, l'histoire du christianisme, la langue hébraïque partage certainement plus de traits communs avec le grec et le latin que le sanskrit avec le chinois. On pourrait même aller jusqu'à dire que tout les oppose. Le chinois n'a pas de déclinaison, de conjugaison, d'opposition singulier-pluriel. Sous sa forme classique qui nous intéresse ici, il est largement monosyllabique, sans parler de son système phonétique. Bien que les linguistes soutiennent avec raison qu'il faille séparer langue et écriture dans une description purement linguistique d'une langue, il est tout aussi évident que dans le cas du chinois, une telle distinction est impossible à faire rigoureusement si l'on travaille aussi sur l'histoire culturelle. À la différence de ce qui s'est passé avec le tibétain, il faut aussi se rappeler que le bouddhisme indien se diffuse dans un pays dont la civilisation écrite date de plusieurs siècles, fondée sur une riche tradition littéraire, possédant déjà un canon d'écriture profondément différent des représentations indiennes, avec cependant quelques courants, comme le taoïsme, qui pourront servir d'intermédiaire à la rencontre des deux mondes. Le bouddhisme, donc, n'est pas un élément fondateur de la civilisation chinoise, mais il s'y insérera profondément, jusqu'à modifier radicalement son histoire. Ce sont bien sûr les traducteurs qui jouèrent un rôle primordial dans cette évolution, en réalisant cette prouesse intellectuelle dont je viens d'esquisser la difficulté. Il s'agit d'un très long développement qui s'est déroulé sur plusieurs centaines d'années, au moins un demi-millénaire, comme je le disais, du milieu du IIe siècle au VIIe, VIIIe siècle, et qui est marqué par le foisonnement des tentatives individuelles qui s'équilibrent peu à peu pour former une tradition langagière qui ne sera finalement jamais uniforme, dans laquelle les couches anciennes de traduction sont susceptibles d'être réemployées à toute époque, conjointement à des formes plus récentes. L'on voit ainsi ce qui était à l'origine des homonymes, traduisant le même terme sanskrit, se différencier en leur usage pour désigner des concepts différents, une fois que l'on a oublié leur origine. Cette situation est particulièrement remarquable dans la riche littérature bouddhique japonaise, dont je m'occupe plus particulièrement, qui se fonde, comme chacun sait, entièrement sur les sources bouddhiques chinoises. Au fil des siècles, les traductions se sont accumulées, établies successivement selon des principes différents, et bien sûr selon des compétences philologiques variées. Mais il est rare que les divers traducteurs aient travaillé dans l'ignorance de leurs prédécesseurs. Nous trouvons le plus souvent une volonté évidente de la part des plus récents d'améliorer le travail de leurs aînés. Ce labeur continu a abouti à une situation langagière fort complexe qui rend d'autant plus essentielle la nécessité pour qui étudie l'histoire de la pensée bouddhique chinoise, celle élaborée par les religieux chinois en leur langue et sur la base des traductions, d'avoir l'idée la plus claire possible de l'histoire linguistique de leurs sources scripturaires, qui, elle, est très compliquée. Je vais tenter de montrer à partir de deux des plus prestigieux traducteurs comment ces traditions ont pu se former et donner une idée de leur impact non seulement sur les doctrines bouddhiques, mais aussi sur la langue chinoise, en espérant avoir un peu de temps pour cela. Mon intérêt pour le bouddhisme chinois m'ayant naturellement conduit à m'intéresser, pour le bouddhisme japonais m'ayant naturellement conduit à m'intéresser plus spécialement au Sutra du Lotus, c'est dans l'histoire de ces traductions que je prendrai mes exemples. Nous avons la chance de posséder en chinois deux traductions complètes du Sutra, séparées seulement par 120 ans d'intervalle, le Jiangfa Huajing et le Miaofa Lian Huajing. La première est datée de 286, la seconde de 406. Il y a plusieurs opinions à ce sujet, d'ailleurs, je retiens celle-ci par pure superstition, pour le parfait synchronisme qu'elle nous donne avec un phénomène européen parallèle, la traduction latine de Saint Jérôme, qui est aussi datée de 406. Elles sont l'œuvre de deux traducteurs qui ont pour point commun de ne pas être chinois, mais d'être originaires de ces contrées de l'Ouest qui ont toujours irrigué la culture chinoise long d'itinéraire que l'on a regroupé sous l'appellation romantique et toujours vivace des routes de la soie, plus vivace que jamais avec les récents développements politiques. Le premier des deux fut Dharmaraksha, dont je vous donne les dates et le nom chinois. Il naquit en terre chinoise, à Dunhuang, aux portes de la Chine, d'une famille appartenant à la nation Yuezhi, répartis en plusieurs branches, dont l'une des plus importantes fut les Kushan. Il parlait, ces Yuezhi, une langue indo-européenne, soit indo-iranienne, soit proche du tocharien, je ne peux pas entrer dans ces détails, qui ne sont pas des détails d'ailleurs. Entré tôt en religion, il eut un maître indien qu'il suivit dans les contrées occidentales et qui lui enseigna le sanskrit, car il avait reçu, point fort important, une éducation chinoise traditionnelle, et le chinois était sa langue maternelle. Il poursuivit, rentré en Chine, son œuvre de traducteur dans les capitales de Chang'an, Luoyang, à Dunhuang aussi, et on lui attribue la traduction de plus de 150 textes indiens, voire 250 selon certaines sources. Kumara Jiva, lui, eut une vie si romanesque que l'on ne peut même pas la résumer ici. Sa mère était une princesse de la ville de Kucha, à la limite sur la bordure occidentale du Taklamakan, n'est-ce pas ? Et son père était un noble indien, ce qui lui aurait permis d'étudier le sanskrit dès son enfance. Lui aussi entra très tôt en religion, vers l'âge de 7-8 ans, et étudia les deux véhicules. Capturé par une expédition chinoise en 384, il passa le reste de sa vie en Chine, à Chang'an notamment. Il y apprit bien sûr la langue, sans jamais parvenir à maîtriser le style écrit. Il aurait eu plusieurs milliers de disciples et traduisit au moins 35 ouvrages. Dharmaraksha comme Kumarajiva ne travaillèrent pas seuls, mais furent à la tête de véritables ateliers où les tâches étaient réparties, du maître qui traduisait oralement au correcteur et relecteur, et même des rewriters, qui mettaient autant que possible le texte en conformité avec les règles stylistiques chinoises. Je ne reviendrai pas ici sur la connaissance du sanskrit imputable aux deux traducteurs. J'ai longuement montré par ailleurs à quel point la version du Sutra du Lotus faite par Dharmaraksha est fautive. Si certains attribuent ces fautes à la hâte, il n'en reste pas moins qu'on imagine difficilement qu'une solide connaissance de la langue les eût tolérées. Je ne reviens pas sur ce sujet ici et m'arrêterai avant tout sur la langue cible, le chinois donc, car la comparaison des deux traductions nous amène à de nombreuses découvertes. Le succès de la version de Kumarajiva, qui a complètement supplanté son prédécesseur, s'explique par sa clarté, sa concision, son élégance et son indubitable fidélité au texte sanskrit. On peut ajouter aussi l'uniformisation de son vocabulaire, qui forme un contraste étonnant avec le foisonnement du chinois de Dharmaraksha, où un même terme sanskrit peut être rendu de façon multiple. Ce foisonnement reflète aussi ce qui apparaît souvent comme un sens plus sûr de la langue chinoise. Donnons-en un exemple très simple. L'original sanskrit du Sutra du Lotus, comme de tous les sutras, commence par la phrase d'ouverture traditionnelle en sanskrit, Evam Maya Shrutam, que Kumarajiva rend par une locution qui deviendra universelle et proverbiale dans tous les pays d'Extrême-Orient, n'est-ce pas ? Jushu O Wen, ainsi, comme ceci, j'ai entendu, j'entends. Or, Dharmaraksha rend cette même phrase sous la forme Wen Jushu, dont on remarque que d'une part elle omet le pronom, typique en cela du chinois traditionnel, où l'on peut dire que la première personne est en quelque sorte la personne par défaut, et met le verbe avant la locution adverbiale, ce qui correspond parfaitement au chinois moderne, par exemple, Ting Shou Jiang, n'est-ce pas ? Ou même, même en cantonais, on trouvera la même construction donc, qui suit celle de Dharmaraksha. On aurait cependant tort de juger à partir de cela que le travail de Kumarajiva soit une rencontre directe entre l'original sanskrit et lui-même. Tout indique, au contraire, que le second traducteur, ou du moins son atelier, a gardé constamment la première version sous les yeux, ce qui est d'ailleurs confirmé par certains témoignages, et que l'œuvre de traduction s'est élaborée dans une relation triangulaire, révélant un souci manifeste, non pas d'abolir, mais de sauvegarder la première version. Pour la commodité du reste, je dirais que je considère le texte sanskrit pour plusieurs raisons dont on pourra discuter ici, comme une sorte de textus receptus grec de la Renaissance, c'est-à-dire c'est vraiment lequel il est à peu près sûr que les deux traducteurs ont travaillé sur un texte extrêmement proche. Et le texte sanskrit sur lequel travaillait Dharmaraksha a été conservé, on le sait, plusieurs siècles en Chine et a été consulté par des commentateurs ultérieurs. Donc je ne reviendrai pas sur le texte sanskrit et j'aurais intérêt, je puis dire, devant un tel public. Alors, nous avons donc un très bel exemple de cette relation très triangulaire au tout début du chapitre 3 du Sutra du Lotus sur la parabole, n'est-ce pas, Aupamya Parivarta, où la phrase de Shariputra que je vous donne ici. La phrase donc prêtée à Shariputra, il faudrait la traduire un peu comme Yoda dans Star Wars, n'est-ce pas, pour montrer que on voit très bien, n'est-ce pas, d'admiration et d'émerveillement frappé je suis, bien heureux, pris de joie. Alors, je n'ai pas à vous la traduire, mais une telle en présence du bien heureux. Proclamation entendant. Donc vous voyez que le Shrutva, le entendant, est à la fin, n'est-ce pas ? Et que la conséquence est au début. Alors, or, les deux versions qui sont ici, je lis mon texte, donc, il y aurait énormément de choses à dire sur cette brève phrase. Remarquons tout d'abord que les deux versions qui traduisent la même proposition ont exactement la même longueur, 16 mots ou 16 caractères que nous avons séparés par groupe de 4 afin de montrer combien ils suivent, alors qu'il s'agit de la partie en prose de la narration, la propension du chinois classique à rythmer la phrase en groupe de 4 mots, qui ne sont pas des vers. On pourrait bien sûr estimer que ce n'est ici qu'une coïncidence due à l'usage. Mais si nous traduisons cette phrase de façon littérale, la première, « À présent, entendant le grand saint exposer cet essentiel de loi, mon cœur, le cœur, est affecté de joie, obtenant ce que jamais auparavant. » Pour Dharmaraksha, et à présent du vénéré du monde, entendant ce son de loi, mon cœur ressent une exultation telle que jamais auparavant pour Kumarajiva. Nous voyons alors qu'elles sont parfaitement superposées, au-delà de ce que le hasard aurait pu produire, étant exactement d'ailleurs à l'inverse de la phrase sanskrite. Les 4 segments s'articulent sur 2 mots initiaux, au milieu de le premier et le troisième segment, n'est-ce pas ? Jin, Shin. Jin qui veut dire maintenant, et Shin le cœur. Chose singulière, comme vous le voyez, ces 2 mots chinois ne correspondent à rien de précis dans l'original indien. Ils ont été ajoutés par Dharmaraksha pour clarifier le sens, et Kumarajiva les a jugés satisfaisants au point de les conserver tels quels en même position dans la phrase. J'ajoute que le cœur ici, selon l'usage fréquent chez Dharmaraksha, réfère toujours à la première personne. On peut considérer que c'est une traduction de la première personne. Les 2 phrases se superposent donc tout aussi rigoureusement dans leur structure, verbe pour verbe, nom pour nom. Mais Kumarajiva corrige Dharmaraksha par touches très légères. Nous avons dit qu'à la différence de son prédécesseur, il privilégie l'uniformisation des traductions. Comme il traduit Bhagavad par « vénéré du monde », il remplace le terme de Dharmaraksha, « grand saint », par ce terme fixé. Remarquons aussi combien il rend la traduction de Dharmaraksha conforme à la phrase sanscrite en supprimant le verbe « exposer », qui n'est pas en sanskrit, pour ne garder qu'entendre, conformément au sanskrit. Et il réintroduit en plus la locution Bhagavato Antikad par Tsong Shuzun, n'est-ce pas, de la part du vénéré du monde. On voit aussi que Kumarajiva corrige essentiel de la loi en son de la loi, gosha, ce qui est certes une correction justifiée pour rendre gosha, mais il conserve le mot loi qui ne figure pas en sanskrit. Nous constatons enfin avec une certaine surprise que l'une des expressions les plus marquantes du Sutra du Lotus, la formule finale de Wei Tsangyo, qui a été interprétée avec quelques vraisemblances, je vous donne ici, qui a été interprétée comme une lecture erronée du sanskrit Adbhuta, etc. Je vous donne simplement cette petite digression. Donc, que cette expression est considérée comme typique du Sutra du Lotus de Kumarajiva. Dans la tradition japonaise, n'est-ce pas, ce toku mizou, mizou-u, est vraiment renvoie tout de suite au Sutra du Lotus. Et l'on voit que c'est une expression qui a été inaugurée par Dharmaraksha dans des conditions philosophiques. Dans des conditions philologiques assez douteuses. Alors, pour Han Chang, je donne ici ce que j'en pense, mais je ne sais pas trop ce que l'on en pensera par ailleurs. Donc, je n'entrerai pas plus avant ici dans ce mot qui me semblait, dans ce qui me semblait être son interprétation correcte. Chacun peut voir certainement par cet exemple simple et clair à la fois que Kumarajiva, tout en corrigeant souvent avec tact Dharmaraksha, le suit en réalité et va jusqu'à reprendre ses ajouts textuels s'il les estime justifiés. L'œuvre de traduction s'opère donc chez lui non seulement à partir du sanskrit, mais aussi sur une trame chinoise préexistante, compliquant singulièrement la relation philologique entre texte original et texte traduit. Nous avons même intérêt, alors je suis désolé, c'est un peu détaillé aussi, mais nous avons même intérêt pour comprendre pleinement la version de Kumarajiva à consulter la version sous-jacente de Dharmaraksha. Par exemple, toujours dans le troisième chapitre sur la parabole, Shariputra déclare dans la version sanscrite, arrêtons-nous seulement à la première, n'est-ce pas, Vayam Bhagavata Hinena Yanena Niryatita. Alors là aussi, il y a des problèmes philologiques que l'on pourrait traduire par Nous avons été rabaissés par le bienheureux à l'aide du petit véhicule. Le terme Niryatita n'est pas très, très clair, n'est-ce pas? Edgerton donne le sens de to return, give back, repay, to give, present. Ici, c'est sans doute le sens de donner qui est le plus probable, mais certains indianistes ont traduit par dismiss, n'est-ce pas? Et poursuivant que pour lui, mais n'est-ce pas, c'était de leur propre faute, des auditeurs, et non de celle du bienheureux. Or, que fait Dharmaraksha de cette phrase? Il la rend par. Le vénéré du monde a pour nous manifesté une variété de doctrines, mais notre volonté est allée au petit véhicule. Accentuons la faute des auditeurs en la définissant comme un choix de leur part du petit véhicule parmi une pluralité de doctrines. On voit qu'il tombe dans un défaut qui lui est familier. Il a une idée préconçue du message du Lotus et l'a fait passer dans sa traduction au détriment de la fidélité. Ici encore, la réaction de Kumarajiva est indirecte. Au lieu de s'en remettre au texte sanskrit, il remanie celui de Dharmaraksha en le suivant de près, aboutissant à une construction grammaticale complexe qui, si je la lisais littéralement, je passe sur les deux premiers, ça ne nous emmènerait trop loin, le premier terme interrogatif, yunhe, qui veut dire comment, qui anticipe quelque chose qui arrive plus loin dans le sutra, dans le texte sanskrit. Donc il traduit « L'ainsi venu, grâce à la loi du petit véhicule, nous avons été sauvés ». Je fais exprès de le rendre de cette façon boiteuse. Toutes les lectures explicatives japonaises, par exemple, accentuent ce qui est bien évidemment le sens grammatical de cette phrase en chinois classique, la locution « jian zi du » ne pouvant s'entendre que comme un tour passif, ce qui rend bien la forme verbale du sanskrit, tout en forçant le sens positif de ce participe passé sanskrit. On peut mettre au compte du flou présupposé de la grammaire chinoise cette construction bizarre qui est en parallèle avec la même rupture de personne que chez Dharmaraksha. Or, si nous lisons, comme nous en avons parfaitement le droit en chinois classique comme en moderne, le caractère tien, n'est-ce pas, le caractère pour voir, nous avons été sauvés, littéralement, c'est, nous avons vu le salut, qui donne une tournure passive. Donc, si nous lisons le caractère tien avec une lecture encore bien attestée en chinois moderne, qui est xian, n'est-ce pas, c'est-à-dire faire voir, manifester, donc montrer le salut, la construction redevient parfaitement normale. L'ainsi venu nous a montré ou manifesté le salut à l'aide de la loi du petit véhicule. Donc, c'est le caractère chien qui apparaît au début du second fragment de la version de Dharmaraksha. N'est-ce pas ? Il a manifesté une pluralité d'enseignements. Donc, en prenant le caractère chinois jian qui entretient l'ambiguïté, donc Kumarajiva réussit la prouesse de sauvegarder le chien de Dharmaraksha tout en respectant la tournure passive de l'original sanskrit et en corrigeant bien sûr le sens. Il y aurait encore, on s'en doute, une infinité de choses à dire sur ce thème de la traduction réécriture. Mais je voudrais encore aborder un point important, et peut-être un second si j'en ai le temps, mais ce sera vraiment très télégraphique. L'un concernant l'influence de ces traductions sur la langue chinoise elle-même. La traduction du sanskrit en chinois a apporté, selon nous, une innovation majeure dans la langue cible, le chinois, la distinction systématique du singulier et du pluriel dans l'usage des pronoms, laquelle était marquée de façon très aléatoire avant la vague de traduction. Cette distinction commune à l'ensemble des langues indo-européennes, et singulièrement en sanskrit, je ne parle pas du duel, bien sûr, ici, qui est passé aussi systématiquement en chinois, mais de façon moins évidente. Elle n'est passée que lentement en chinois écrit, à travers les traductions, selon des procédés encore assez divers chez Dharmaraksha, c'est-à-dire l'utilisation d'une variété de marqueurs du pluriel, pour devenir un paradigme régulier chez Kumarajiva. Dharmaraksha, je vous donne ici ce petit tableau, n'est-ce pas ? Comme Kumarajiva, sont donc très attentifs à distinguer le singulier du pluriel en suivant autant que possible l'original sanskrit. On peut affirmer qu'il y a un strict parallélisme dans leur usage, visant à transposer systématiquement en chinois les distinctions qu'opère la langue indienne. Donc la nécessité d'exprimer le nombre en même temps que la personne est perçue dès le IIIe siècle. Il y a cependant une différence majeure entre les deux traducteurs, différence qui préfigure l'évolution ultérieure de la langue chinoise. Alors que Dharmaraksha, dans l'usage des pronoms comme dans le vocabulaire général, fait montre d'une grande liberté, variant selon son gré et puisant à plaisir dans les immenses richesses du lexique chinois, Kumarajiva se livre à un strict élagage. Il semble qu'il y ait de sa part un effort conscient de transposer dans la langue chinoise l'univocité du système sanskrit de référence à la personne. Dharmaraksha utilise encore deux pronoms différents pour le je vous les donne ici, et deux autres essentiellement pour le tu, que je vous donne ici, mais il a une variété de marqueurs du pluriel, la troisième ligne, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y en a plusieurs, et parfois même ils sont redondants, comme le dernier exemple de la troisième catégorie, il met deux marqueurs du pluriel. En revanche, si Kumarajiva ne peut se résoudre à choisir entre les deux pronoms de la première personne, non seulement il élimine l'une des deux personnes de la seconde personne du singulier, mais pour la première personne du pluriel, il n'emploie plus qu'une seule possibilité, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas ? Wo, je, wo, dang, nous, n'est-ce pas ? Là où son aîné employait les deux formes wu dang ou wo dang. Cette simplification a pour conséquence que l'usage de Kumarajiva préfigure de façon frappante le chinois moderne, qui exprime, comme chacun sait, strictement les distinctions de nombre avec ses formes wo, woman et ni, nimon. Je simplifie aussi un peu ici, mais vous voyez, ce sont les dernières formes de la dernière ligne. Si nous nous référons à une très bonne histoire générale de la langue chinoise, celle du professeur Jerry Norman, paru en 88, nous y apprenons que l'un des traits caractéristiques des pronoms du chinois classique était leur absence de distinction du nombre. Il est douteux, dit Jerry Norman, je vous laisse le lire ici en anglais, que le nombre soit devenu une catégorie obligatoire pour les pronoms personnels avant la fin de la dynastie des Tang, c'est-à-dire le Xe siècle. Si nous nous fions à cet éminent spécialiste de la langue chinoise, autour de 900, Si nous nous fions à cet éminent spécialiste de la langue chinoise, ce ne serait que 6 siècles après Dharmaraksha et 5 siècles après Kumarajiva qu'un trait qui nous semble aussi indispensable que l'expression non ambiguë du nombre dans la personne s'est généralisé en chinois, pour devenir dès lors une norme indiscutée. Nous voyons par l'exemple de ces deux traducteurs qu'il ne s'agit en aucun cas d'une évolution interne à la langue chinoise, ou complètement interne, mais que l'influence de la langue indienne, dont les catégories grammaticales s'imposaient à l'attention des traducteurs, comme à l'attribut nécessaire à exprimer dans leur traduction, a joué un rôle décisif dans ce processus. La conclusion est claire, n'est-ce pas ? C'est à eux que nous devons cela. J'ajouterai rapidement que c'est ce même paradigme qui sera repris par les traducteurs de la Bible chrétienne en chinois à partir du Xe siècle et de façon plus organisée au XIXe siècle, Wodang, et que repris dans la lecture japonaise des textes bouddhiques auparavant, il sera aussi transféré dans les versions du XIXe siècle en japonais classique de la Bible. On saute donc d'un canon à l'autre, en quelque sorte. Voilà, je vais passer directement à la conclusion en vous épargnant quelque chose qui est très intéressant, mais un peu complexe à expliquer en moins d'un quart d'heure. Enfin, très intéressant pour moi. Donc, cette brève description des caractéristiques de deux des plus grands traducteurs, ou de collectifs de traduction, si vous préférez, de textes, puisqu'ils ne travaillaient pas tout seuls, de textes bouddhiques indiens en chinois, vise à mettre en lumière un aspect méconnu de ce long et admirable procès que fut le transfert d'une doctrine profondément enracinée dans l'univers religieux et linguistique indien, à savoir le l'un de ses traits caractéristiques est cet aspect cumulatif des traductions, où chaque traducteur, ou de nombreux traducteurs, dialoguent d'une certaine façon avec ses prédécesseurs. C'est un phénomène particulièrement visible dans la relation entre Dharmaraksha et Kumarajiva. Comme on a pu s'en apercevoir, j'ai évité d'aborder la question du vocabulaire, bien évidemment fondamentale, qui a reçu plusieurs solutions au cours des âges. L'adaptation de termes déjà existants à des sens bouddhiques, l'élaboration de néologismes, la transcription phonétique directe de termes sanscrits ou moyen indien. Le résultat étant que la terminologie bouddhique chinoise s'est stabilisée, si l'on peut dire, sur ces trois bases, doublant, voire triplant le vocabulaire général du bouddhisme indien. Nous en sommes tenus à des questions de syntaxe et de grammaire auxquelles on ne prête pas assez attention, alors que l'essentiel des travaux porte sur le vocabulaire, bien qu'il faille bien sûr saluer ici les recherches pionnières et fondamentales de Daniel Boucher, de Kalashi Maseshi, de Stefano Zacchetti. Les quelques exemples présentés ici relèvent, nous semble-t-il, de ce que notre Paramahansa Sheldon Pollock évoquait dans sa conférence « La philologie tacite », que l'on peut certes tenir pour synonyme de philologie orale, mais que nous avons vu en action ici dans cette double action de traduction menée à 120 ans d'intervalle par deux traducteurs qui sont issus d'une ère culturelle intermédiaire, bien que l'un eût le chinois comme langue maternelle, l'autre comme langue acquise. On sait malheureusement très peu de choses sur l'enseignement du sanskrit en milieu chinois. Les quelques ouvrages que l'on possède concernent avant tout le vocabulaire, et l'on serait bien en peine d'y découvrir une description du système verbal sanskrit, bien qu'il y ait quelques mentions de la déclinaison. La belle description que le professeur Edwin Jarrow a donnée des conceptions grammaticales médiévales où les désinences verbales étaient considérées comme plus importantes par certains que le radical montre à quel point ces conceptions étaient étrangères à nos traducteurs. Il est manifeste que Dharmaraksha ne tient compte que du sens général des racines, voire des mots seulement, qu'il reconnaît, tâchant de les assembler en un chinois chatoyant selon les connaissances préétablies qu'il a du bouddhisme et du sens général des sutras qu'il traduit. Kumarajiva a du sanskrit une connaissance infiniment plus rigoureuse. On aurait pu imaginer qu'il s'en serait servi pour oblitérer le travail de son prédécesseur. Il l'a au contraire mis au service d'une œuvre de conciliation, sa traduction apparaissant dans la continuité de la précédente comme un perfectionnement et non comme une abolition. De la même façon, les Chinois ont répugné à écarter un texte traduit au profit du plus récent ou du meilleur. L'immense canon bouddhique chinois a donc scrupuleusement recueilli l'ensemble des traductions disponibles, imposant pour ainsi dire naturellement la nécessité d'une enquête philologique de type exégétique, herméneutique et textuelle, les trois à la fois, au cours des âges. Enquête qui se poursuit encore avec les nouveaux moyens de la technique moderne. Et je vous remercie de votre attention.